Europe 1. Je vais vous parler aujourd'hui de la Grande Jacquerie, une révolte un peu oubliée mais à laquelle on se réfère chaque fois que le peuple s'insurge contre le pouvoir. Au XIVe siècle, la population, en très grande majorité paysanne, subit des épisodes de famine et doit pourtant nourrir les nobles incapables de la protéger contre l'ennemi anglais pendant cette longue période de conflit qu'est la guerre de Cent Ans. Elle décide alors de ne plus courber les chines et de prendre les armes, en l'occurrence des fourches et des bâtons. Mais ça suffit pour semer la haine et la violence dans une grande partie du bassin parisien. Partout, les châteaux sont pillés et rasés et les gueux font la fête sur les tombes de leurs maîtres. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. La Grande Jacquerie, la révolte de paysans qui a fait trembler la France. À la fin du mois de mai 1358, un convoi de réquisition approche du village de Saint-Leu-d'Esserand dans l'actuel département de l'Oise. Au titre de l'impôt, des gendarmes viennent saisir tout ce qu'il reste de nourriture. Le convoi n'est pas accueilli comme d'habitude par des aboiements de chiens. Forcément, les villageois les ont tous mangés. Un calme étrange règne aux alentours. Pas un paysan dans les champs, même pas un mendiant affamé qui mendant de quoi survivre. Pourtant, des miséreux, ce n'est pas ce qui manque dans le royaume. Les hommes d'armes progressent lentement au rythme des bêtes qui tirent les charrettes. Ils se méfient de ce silence inhabituel. On dirait que les habitants sont tous partis, ou bien tous morts. Ce serait possible après tout. Ici, on meurt de faim. Alors qu'ils traversent le village, les soldats voient soudain surgir des paysans armés de bâtons et de fourches. Ils étaient là, tapis derrière les murs des chaumières et les tas de foin. Ils se jettent sur les envoyés du roi, les frappent et les piquent tandis que les femmes se ruent sur le convoi en espérant y trouver ce qui a été prélevé dans les villages voisins. Tous sont loqueteux, sales et poussent des cris d'animaux. Dans leurs yeux fiévreux et leurs os saillants, on lit le désespoir. Maigres à faire peur et affamés, ils n'ont plus rien à perdre. Ils hurlent, frappent, étranglent, déchirent, arrachent, éborgnent, blessent et démembrent les émissaires royaux. Et dans ce combat du pot de terre contre le pot de fer, c'est le pot de terre qui l'emporte, animé par l'énergie du désespoir. Un certain Guillaume Carl prend rapidement la tête des révoltés. Ce n'est pas un pauvre paysan inculte, mais quelqu'un qui possède des biens, peut-être même un ancien soldat. Les chroniques de l'époque ne précisent pas son origine, mais le décrivent comme un homme bien sachant et bien parlant, de belle figure et forme. Les insurgés le prennent pour chef et le nomment capitaine souverain du plat pays. La révolte a un chef, mais elle se propage parmi les paysans sans organisation ni plan. Il faut dire qu'à l'époque, la majorité des sujets du roi sont des paysans et leurs conditions de vie sont misérables. Le XIVe siècle est une catastrophe pour le royaume de France et ses sujets. Il ne fait pas bon vivre. Le siècle s'ouvre sur ce qu'on appelle la grande famine européenne. Selon les estimations des historiens, 10% de la population européenne meurt de faim entre 1315 et 1320, essentiellement parmi les paysans les plus modestes. Puis, la guerre de Cent Ans commence en 1337 entre les Français et les Anglais qui se disputent le trône de France. Les défaites militaires, ou plutôt les désastres, se succèdent, à Crécy en 1346 et à Poitiers 10 ans plus tard. C'est au cours de cette bataille que le roi de France, Jean de Lebon, est fait prisonnier par le prince noir, le fils du roi d'Angleterre. Le royaume est humilié et la noblesse est discréditée, incapable de protéger son roi et de défendre le pays. La colère gronde dans les campagnes ravagées par les combats. Les soldats, souvent des mercenaires sans foi ni loi, pillent et violent sans scrupules au cours de chevauchées sanglantes. Ils se paient en nature sur les habitants et leurs misérables récoltes. Charles, fils du roi Jean de Lebon, assure la régence, mais il n'est que le dauphin. Pendant la captivité du roi en Angleterre, les prétendants au trône de France se manifestent, et parmi eux, il y a Charles le Mauvais, le roi de Navarre. Comme le roi d'Angleterre Édouard III, Charles de Navarre descend par sa mère de Philippe le Bel. La détention du souverain est le moment rêvé pour s'emparer de la couronne. C'est aussi le moment que choisit Étienne Marcel, l'équivalent du maire de Paris, pour se révolter. Il cherche à réduire le pouvoir royal au profit de la bourgeoisie. À ce contexte politique instable et violent s'ajoute la maladie. Depuis 1348, la peste a débarqué en Europe. En 4 ans, elle va décimer un tiers de la population européenne dans toutes les classes sociales, avec des pics de mortalité chez les juristes, car ceux-ci fréquentaient les maisons des malades pour faire exécuter les testaments. Bon, vous croyez sûrement que la situation est déjà suffisamment catastrophique. Eh bien non. La guerre, le roi prisonnier, la presque guerre civile et la peste ne suffisent pas pour brosser un tableau fidèle du XIVe siècle dans le royaume de France. Il faut aussi que je vous parle d'un événement qui commence à cette période et qui va durer jusqu'au XIXe siècle. Et cette fois, a priori, l'homme n'y est pas pour grand-chose. C'est le sort qui s'acharne. Les historiens appellent cette période la petite glaciation. Il s'agit d'un léger refroidissement climatique qui suffit à provoquer des hivers rigoureux et des étés humides, ce qui a pour conséquence de ralentir la production agricole. Le peuple avait faim, désormais, il est affamé. Vous voyez la catastrophe arriver, là ? À cause de la grande peste, il y a moins de paysans pour travailler la terre et les rendements sont désastreux. Les seigneurs, eux, ont toujours les mêmes besoins et moins de paysans à taxer. Ils augmentent donc les impôts. Il faut se rappeler que la société médiévale est divisée en 3 classes, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Pour faire simple, les paysans travaillent pour nourrir les 2 autres classes. En échange, le clergé prie pour sauver les âmes et les seigneurs assurent la défense et la sécurité du territoire. Mais les seigneurs ne cessent de prouver leur inefficacité. La fine fleur de la noblesse française a été décimée à Crécy et à Poitiers. Plus personne ne défend les paysans contre les attaques des pilleurs et autres mercenaires. Alors pourquoi continueraient-ils à jouer leur rôle ? Pourquoi nourriraient-ils ces bons à rien de nobles ? Les paysans sont à bout. Alors quand les gendarmes arrivent pour prendre le peu qui reste, c'en est trop. À Saint-Leu-d'Esserans, les paysans pillent le convoi. La victoire leur donne des ailes, ils se sentent forts, ils partent vers les villages voisins, puis le suivant, et le suivant encore. Bientôt, ils sont près de 5000 à battre la campagne, tandis que le tocsin se met à sonner pour avertir d'un danger. Les paysans de plus en plus nombreux déferlent dans le Beauvaisis. Comme un fleuve en crue, ils entraînent sur leur passage tous les affamés. Ils s'en prennent à ceux qu'ils détestent, l'Église et les seigneurs, leurs oppresseurs. De nombreux chroniqueurs de l'époque ont raconté les exactions commises par les insurgés qu'ils appellent les Jacques. Pourquoi les Jacques ? C'est un mot que les nobles utilisent pour désigner les paysans qui portent des vestes qu'on appelle des Jacques. Évidemment, ce n'est pas un compliment. Ils les appellent aussi du surnom péjoratif de Jacques Bonhomme. C'est un chroniqueur médiéval du nom de Jean Froissart qui a inventé a posteriori le mot « jacquerie » pour parler de la révolte de 1358. L'histoire l'a retenu sous le nom de « Grande Jacquerie », mais le Moyen-Âge est parsemé de ces révoltes paysannes. Jean Froissart, le grand chroniqueur de l'époque, raconte les débuts de ce soulèvement alors que les paysans viennent tout juste de quitter Saint-Leu-d'Esserans. Il décrit des faits ignobles, peut-être exagérés, mais qui disent la violence dont les révoltés qui n'ont plus rien à perdre sont capables.
Alors ils s'assemblèrent et s'en allèrent, sans autre conseil et sans nulle armure, armés seulement de bâtons ferrés et de couteaux dans la maison d'un chevalier qui demeurait près de là. Ils brisèrent la maison et tuèrent le chevalier, la dame et les enfants, petits et grands, et brûlèrent la maison. Secondement, ils s'en allèrent vers un autre château fort et firent pire, car ils prirent le chevalier et le lièrent à un poteau bien et fort, et à plusieurs, violèrent sa femme et sa fille sous ses yeux. Puis ils tuèrent la femme qui était enceinte et grosse d'enfants, et sa fille, et tous les enfants, et puis le dit chevalier à grand martyr. Puis ils brûlèrent et abattirent son château. Ainsi firent-ils plusieurs châteaux et bonnes maisons.
Froissart prétend même qu'un chevalier est tué, puis passé à la broche devant sa femme qui est invitée à le manger. Tous les manoirs, les châteaux, les églises que les Jacques croisent sont systématiquement pillés. Les révoltés se transforment en hordes guidées par la folie collective et enhardies par les victoires. Comme une traînée de poudre, la révolte s'étend de la Brie à la région de Laon et de Soissons pour gagner la Normandie et la Champagne. On dit que parmi les insurgés, il y a aussi des petits commerçants et des artisans des villes. Ce qui est évident, c'est qu'il n'y a pas que des paysans pauvres. Certains ont des chevaux et des armes. Galvanisés par leur victoire, les Jacques se rapprochent de Paris. Le 9 juin 1358, ils sont à Meaux, aujourd'hui en Seine-et-Marne, et s'apprêtent à prendre la forteresse d'assaut. Mais cette fois, Ils sont attendus de pied ferme par une noblesse revenue de sa surprise et prête à se défendre. Les Jacques sont massacrés. Guillaume Carl, leur chef, cherche alors à se faire des alliés. Contre le pouvoir royal, il a le choix. Étienne Marcel à Paris, en révolte contre le dauphin Charles, ou le roi de Navarre, Charles le Mauvais, candidat au trône de France. Mais quel intérêt ces deux puissants auraient-ils à s'allier avec des gueux ? Étienne Marcel pense un instant faire alliance avec Guillaume Carl, car les Jacques progressent vers Paris, où lui-même n'a pas d'alliés. Pour le prévôt des marchands, plus de gens se révoltent contre le pouvoir royal, mieux c'est. Certains de ces hommes renforcent donc la troupe de Guillaume Carl après le désastre de Meaux. Les Jacques, alliés aux Parisiens, mettent à sac le château d'Ermenonville. C'est le château de Robert de Lauris, chambellan du roi. Après le passage des Jacques, il n'en reste rien. C'est grâce aux hommes d'Étienne Marcel que le chambellan et sa famille ne sont pas taillés en pièces. L'alliance tourne court. Les Parisiens se rendent compte que les Jacques ne leur serviront pas à grand-chose et que leur fureur destructrice et meurtrière n'apportera rien de bon. Guillaume Carl, désormais à la tête d'une petite armée, se rend ensuite vers Compiègne pour retrouver le roi de Navarre. Dans un premier temps, la noblesse de la région de Beauvais s'est enfuie devant les Jacques et s'est réfugiée dans le pays de Brévoisin. C'est alors que Charles le Mauvais décide de prendre la tête de la répression contre les Jacques. En se rendant à sa rencontre, Guillaume Carl se jette donc dans la gueule du loup. Qu'espère-t-il ? On ne le saura jamais. À Mélo, près de Clermont en Beauvaisis, les Jacques se heurtent à l'avant-garde de Charles le Mauvais. Guillaume Carl comprend aussitôt qu'un affrontement avec ses hommes d'armes entraînés conduirait à une cuisante défaite. Les insurgés n'ont ni l'expérience des batailles rangées, ni l'équipement des chevaliers qu'ils vont affronter. Mais les Jacques survoltés n'écoutent aucun conseil de prudence. Il faut continuer à progresser de victoire en victoire. Contraint par ses hommes, Carl range ses troupes en ordre de bataille sur le plateau qui s'étend au-dessus de Mélo. Il divise son infanterie en deux et la protège derrière des retranchements faits de chariots et de bagages. Il a des archers, des arbalétriers. À l'arrière, pour soutenir son infanterie, il a aussi une cavalerie de 600 hommes. Charles le Mauvais est impressionné par les forces en présence. Après tout, ça ne fait que 15 jours que la révolte a commencé. Pendant 2 jours, son armée regarde celle des Jacques et il réfléchit. Plutôt que de faire tuer ses hommes par des gueux, mieux vaut utiliser la ruse. Ce qu'il s'apprête à faire n'est pas digne d'un chevalier. Le roi de Navarre demande à Guillaume Carl une entrevue pour négocier. Le Jacques s'empresse d'accepter, mais à peine a-t-il mis le pied dans le camp du Mauvais qu'il est arrêté et mis au fer. Aussitôt, les troupes du Navarrais attaquent et ne font qu'une bouchée des Jacques qui n'ont plus de chef. Le 12 juin 1358, la bataille tourne au carnage. Quelques révoltés parviennent à se réfugier à Clermont, mais le Mauvais les poursuit. Ils sont arrêtés. Charles le Mauvais décide alors de faire de Guillaume Carl un exemple. Le chroniqueur Jean Froissart écrit que le chef de la Jacquerie est publiquement supplicié. Pour le tourner en dérision et l'humilier, il est coiffé d'une couronne chauffée à blanc. Voilà la seule couronne qu'il mérite, semble dire Charles le Mauvais. Puis Carl est décapité. La répression ne fait que commencer. Les chefs sont impitoyablement torturés et mis à mort. Dans chaque village, Charles le Mauvais fait exécuter les insurgés dont les maisons sont brûlées. Selon Froissart, le roi de Navarre aurait fait pendre 3000 personnes en une seule journée. La grande jacquerie de 1358 n'a duré qu'une quinzaine de jours. Elle a été d'une violence inouïe dans les deux camps. Cette violence témoigne de la défiance réciproque entre nobles et paysans. Ces phénomènes ne sont pas isolés. Ils ressurgissent dès que le pouvoir est faible et que les impôts sont trop lourds. On peut citer par exemple la révolte des tisserands de Gand, celle des paysans en Angleterre, des Tuchiens en Languedoc, des Maillotins à Paris. Ces travailleurs révoltés sont désormais tous appelés des Jacques. En 1789, ils deviendront les sans-culottes et en 2018, les gilets jaunes. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Julien Tarot. À la direction artistique, Julien Tarot. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur l'application d'Europe 1, sur toutes les plateformes d'écoute, tous les jours, et chaque week-end à 15h sur l'antenne d'Europe 1. À bientôt.